Encore une fois, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Eh bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la troisième vague de Covid-19, comment faire respecter les mesures barrières. Nous allons accueillir tout à l'heure le professeur Jean-Marie Kayembe, responsable de la prise en charge au niveau de l'équipe des Ripostes. Docteur Michel Mouvoudi, membre de cette équipe aussi, sera notre invité. Il est expert en santé publique. Ils seront là tous les deux pour nous en dire un peu plus des questions et préoccupations. Le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Marcel Ngombo assure la coordination et la réalisation. Jody Daniel Kachama est au micro. Jean-Marc Matouaki est à la coordination, à la technique. Dieudonné Nyangasa.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Bien, le chef de l'État a annoncé dernièrement les mesures pour contrer la troisième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. Outre la fermeture des discothèques pendant 15 jours, le président a annoncé le maintien du couvre-feu de 22h à 5h avec patrouille militaire. Les veillées funéraires sont interdites et il y a d'autres mesures que notre invité va nous rappeler tout à l'heure. Alors comment les faire respecter? Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes expert en santé publique et membre de l'équipe des Ripostes contre Covid-19. Bonjour.
Bonjour monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Bien, docteur, pouvez-vous nous rappeler les autres mesures prises pour contrer cette troisième vague de Covid-19?
Alors, il y en a 13, monsieur Jody, je ne sais pas si je dois les parcourir one by one, comme on dit en anglais, mais grosso modo, ce que les gens peuvent retenir, c'est qu'en fait, on a 13 décisions qui ont été prises par le chef de l'État au regard de la situation liée à la troisième vague. Alors, vous avez pratiquement 8 décisions qui se rapportent aux mesures barrières. Donc, c'est notamment, par exemple, que le chef de l'État martelait sur le port obligatoire du masque, je crois que ça vous avez vu. Mm-hmm. C'est notamment la question d'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics parce que justement on voudrait favoriser la distanciation physique. C'est la question d'interdiction de l'organisation des deuils et des veillées mortuaires parce que dans ces conditions-là, les gens sont bondés, les gens sont attroupés et donc ça favorise la propagation du coronavirus. C'est la question de la fermeture des discothèques, boîtes de nuit pour une durée de 15 jours. Donc ça, c'est principalement une mesure qui va éviter encore une fois de plus d'attroupements. C'est la question des restaurants. Là, vous avez vu qu'il y a un peu une nuance. Le chef de l'État a pris la décision que les restaurants vont rester ouverts, mais avec des conditions strictes de respect des mesures barrières. C'est très important de retenir que pour cette catégorie d'activités, on va quand même laisser, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais encore une fois de plus, le respect des mesures barrières doit être strict. Et vous avez la gestion, vous avez aussi à côté de cela toute la situation des établissements scolaires et universitaires qui restent ouverts. Mais encore une fois, pour cette catégorie encore d'activités, le chef de l'État a renforcé l'observance des mesures barrières. Ça, ce sont les mesures, si vous voulez dire, les décisions qui sont dans la catégorie que moi j'appelle vraiment des respects des mesures barrières. Il y en a 8 sur 13, donc c'est le gros des décisions. Alors, vous avez 4 mesures qui sont vraiment en lien avec le contrôle sanitaire. Là, c'est par exemple le contrôle sanitaire aux postes et frontières nationaux qui seront très renforcés. C'est notamment, par exemple, tout ce qui est, lorsque vous entrez dans les marchés, Il est important de pouvoir se faire prendre la température et se faire désinfecter les mains. Donc ça, c'est vraiment des mesures liées au contrôle sanitaire. Vous avez aussi la question du maintien du couvre-feu. Pour moi, c'est encore une fois de plus un contrôle qui va renforcer tout ce qui est mesures de contrôle sanitaire. Et évidemment, vous avez vu aussi tout ce qui est gestion assez rigoureuse des églises pour pouvoir assurer que les gens sont vraiment contrôlés avant l'entrée et assurer qu'il n'y ait pas d'encombrement. Et une seule mesure, c'est vraiment une mesure liée à la prise en charge, c'est la décision 10, en fait, là où on parle de la prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà un peu, Jody, si tu veux bien, l'ossature et l'analyse des décisions prises par le chef de l'État. Donc du coup, grosso modo, il y a huit décisions qui sont liées vraiment aux mesures barrières, donc 57%. Vous avez 4 mesures sur les 13 qui sont liées au contrôle sanitaire et une mesure qui est liée à la prise en charge des malades. Voilà un peu ce que je peux rappeler par rapport à cette décision très salutaire du chef de l'État.
Platini Mbombo nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, je salue tout le monde.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà, merci beaucoup Jody de m'avoir associé à ce débat. Je crois qu'on a tous suivi le message de l'État, surtout dans le mesure barrière, qui est aujourd'hui la troisième vague de Covid-19. Alors, Jody, je pense qu'on a été la partie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette maladie-là, tout ça. Et aujourd'hui, la troisième vague est arrivée. Parce que je suis à Mbandaka, le Kator, et je vois comment les gens circulent. Là aussi, je fais allusion pour féliciter le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a mis beaucoup de systèmes sanitaires dans la ville de Mbandaka, dans la ville de Kinshasa. Mais ici, sur l'Équateur, ou sur la ville de Mbandaka, cette mesure n'arrive pas vraiment à être respectée par la population. Parce que si je prends exemple aussi au niveau des taxis, mais aussi je prends aussi des taxis Wewa, vous allez constater que sur dans une même route, un taxi moto qui prend au moins 3 personnes des motos. Et ça passe comme ça, toutes les personnes ne respectent pas à mettre ce qu'on espère, on dit le cache-nez. Et aussi, je dis, et partout, si vous voyez dans nos différents bureaux, aussi dans la ville de Mbandaka où là je suis, vous allez constater que même le type de bureau qui est censé respecter cette troisième vague ne respecte pas. Parce que le cache-nez n'est pas aussi respecté ici dans la ville de Mbandaka ou soit dans la population. Ici, peut-être on dit que nous, la troisième vague n'est pas ici chez nous, à Mbandaka, soit à l'Équateur. Et aussi, la fois passée, on a bien suivi là-bas à Guémena, aussi du Bandit, il y a un bon nombre qui est atteint au niveau de cette pandémie de coronavirus qui est maintenant à la troisième vague. Alors, là-bas, je ne sais pas, parce que j'étais là les mois passés, j'ai vu comment ça déroule, c'est sur le millier, mais vous allez constater qu'il y a beaucoup de nombre de gens qui ne respectent pas aussi les gestes barrières. Pas les gestes barrières, c'est le masque.
D'accord. Alors, quelle est la question que vous adressiez à l'invité?
La question que je veux adresser à l'invité, lui-même m'a dit qu'il y a 4 mesures barrières, oui. Mais aujourd'hui, lorsque la population ne respecte pas les mesures barrières, est-ce qu'il pourrait que cette pandémie peut aussi augmenter petit à petit? Et la deuxième question, comme on a suivi qu'au niveau de Sudoubani, donc à Guémena, là-bas, il y a bon nombre de gens qui ont atteint. Donc le coronavirus est là-bas. Est-ce que ça peut, si le mesure barrière n'est pas respectée, ça peut aussi affecter d'autres provinces qui sont aux environs, comme l'Équateur, Chuapa, ou Sudoubani? Si je peux prendre la troisième question, si l'invité peut nous expliquer. Je crois que le président a dit, mais sur le plan de transport fluvial, il n'a pas dit ça. Mais on voit sur le fleuve Congo qu'il y a des bateaux qui transportent beaucoup de gens qui arrivent de gauche à droite. Et je ne sais pas là, quelles sont les dispositions au niveau de ces...
Au niveau du transport fluvial. Merci. Merci à Platini et à Mbombo de Mbandaka. Docteur Michel.
Alors, merci, Jody. Je crois que je vais encore une fois de plus profiter de questions que pose notre ami de Mbandaka pour revenir sur ce que je suis en train de dire depuis longtemps. Je ne veux pas changer de discours parce que je pense que ce que je mentionne souvent, c'est lorsqu'il y a une décision comme celle-ci du chef de l'État, rappelez-vous, Jody, j'ai toujours dit l'important, c'est l'application. Comment on arrive à appliquer les mesures sur terrain. Parce que une chose, c'est qu'on ait pris des décisions, et ça, je crois que ces décisions sont tout à fait logiques, et c'est des décisions qui s'en coupent avec ce que nous disons déjà depuis longtemps, et le chef de l'État n'a fait que renforcer cela. Mais d'autre part, il faudra justement assurer que on commence à les appliquer, on commence à mesurer même comment ça, la situation est en train d'évoluer positivement. Alors, il y a trois éléments là-dedans. Le premier élément, je voudrais ici vraiment lancer un appel à toutes les autorités politico-administratives. Pour moi, lorsque le chef de l'État énonce ces 13 mesures que je venais de vous classer en trois catégories, en fait, il a donné un plan d'action, en quelque sorte. Chaque autorité politico-administrative, là où elle est, ses décisions doivent faire objet de son plan de travail. On ne peut pas faire autrement. Nous avons un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Nous avons 26 provinces. Nous avons presque 145 territoires, ainsi de suite. Donc, il est important que chaque autorité, là où elle est établie, qu'elle prenne ses décisions du chef de l'État, qu'elle les décline en plan de travail et qu'elle en fasse, n'est-ce pas, son quotidien en termes d'exercice du pouvoir. C'est très important. On ne peut pas attendre que les gens commencent à mourir ou qu'on commence à dire « Oui, mais écoutez, il a dit, mais on ne voit pas. » Mais vous voulez que qui le fasse à l'Équateur, si ce n'est les autorités, l'autorité politico-administrative locale? Vous voulez que qui le fasse au Katanga, si ce n'est l'autorité politico-administrative locale? Donc, à chaque niveau, on a quand même une autorité qui représente l'État et qui doit s'assumer par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment un appel important. On l'a vu avec les autres situations. Deuxièmement, que notre ami comprenne qu'en fait, au-delà de ce rôle de l'État, à travers son arborisation, à travers sa déclinaison du niveau central vers le niveau le plus décentralisé, il y a toujours la variante communautaire en termes de participation collective. Je crois qu'une province comme l'Équateur, vous avez la société civile, vous avez des organisations communautaires. Mon ami qui pose la question doit comprendre que nous attendons aussi de la communauté de l'Équateur pour commencer à montrer l'exemple. Ça veut dire s'organiser en tant que population en disant « Cette menace nous concerne nous d'abord. C'est une menace contre nous. Et si nous ne nous définissons pas ce que nous allons faire en termes d'éducation, en termes de suivi, nous n'allons pas y arriver. » Donc, j'insiste encore sur la responsabilité collective à la mise en œuvre des décisions qui sont prises par les autorités. Et enfin, M. Jody, il y a quelque chose que je suis en train finalement de proposer de plus en plus. Mmh. Pour moi, je me dis pourquoi on ne peut pas s'imaginer d'avoir des brigades sanitaires Covid-19. Des jeunes, par exemple, qu'on pourrait recruter par commune, par quartier, qu'on pourrait former, et qui pourraient justement, moyennant des petites incitations, faire le suivi de ces mesures autour du bourgmestre, autour du chef de quartier, pour assurer que on est en train justement de les respecter. Mais encore une fois de plus, les décisions émises par les chefs de l'État viennent renforcer justement ce qu'on sait déjà à travers les trois piliers que je venais de vous mentionner, mais on a besoin que l'on s'implique tous, et là je m'adresse aussi à tous ceux qui ont le pouvoir à différents niveaux, d'exercer cela pour que nous arrivions à mettre fin à la propagation de ce virus, surtout pendant cette troisième vague. Voilà ce que moi je peux dire à notre ami de l'Équateur. Il invite justement à ouvrir des forums à l'Équateur, en Bandaka, pour discuter de ça et prendre des décisions au niveau de l'Équateur. Et ce ne sera pas, en tout cas, l'affaire seulement de ceux qui sont au niveau de Kinshasa ou du chef de l'État. C'est l'affaire de tous. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne en santé.
Bien, on va accueillir, avant de répondre à sa question sur le transport fluvial, nous avons Aline Malonga de Bandundouville et Madame Evelyne de Kananga. Malonga, bonjour. Malonga, bonjour. Voilà, il est à un endroit où il y a beaucoup de bruit.
Oui, bonjour Jody. En tout cas, il y a problème de connexion.
Bon.
Bonjour à notre invité.
On vous entend très bien, bon, mais c'est, moi, il y a beaucoup de bruit là où vous êtes.
D'abord, le président de la République, puisqu'il y a le souci de... À chaque fois, il y a une variation de cette pandémie. Il y a ce souci pour nous protéger. Mais il y a un problème ici de compréhension à l'intérieur. Par exemple, ici chez nous, à Bandundouville. j'étais à Kinshasa, c'est par là où nous avions cliqué, non, en tout cas à Kinshasa, il y a troisième vague. Mais lorsque j'arrive ici, il y a la proclamation des couvre-feu jusqu'à 22h. Est-ce que ça concerne seulement la capitale ou bien toutes les
l'ensemble du territoire national?
Et de là, il y a une discussion entre nous, la population. Bon, je vais demander encore, comme cette pandémie vient avec la série des phases, il y a première phase, deuxième, troisième, quatrième, est-ce que quand est-ce qu'on aura la dernière phase et puis on va s'habituer à vivre avec avec COVID-19?
Merci Malonga.
Ça sera continuellement ainsi. En tout cas, aujourd'hui, je vous le dis en vérité, ça sera fatigant pour la population.
Merci Malonga. Madame Evelyne de Kananga, bonjour.
Bonjour Daniel. Bonjour à notre invité. Et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est telle que la gestion de COVID-19 fait appel, n'est-ce pas, à la conscience de tout le monde. Donc nous devons être consciencieux. Et elle fait appel à la responsabilité personnelle et à la responsabilité communautaire. Dans la gestion des COVID, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous demandons à ce que les services qui sont disposés fassent le suivi des décisions prises par le chef de l'État, le fasse conformément à ce que lui-même a arrêté comme mesure. Vous verrez les services d'intelligence, la police, profiter des décisions du chef de l'État et ils vont aller au-delà de ce que lui-même a arrêté comme mesure. Ils vont commencer à tracasser la population. On a dit ceci, on ne veut pas que vous puissiez ouvrir les portes. Alors que lui-même a dit, on ouvre, mais on ne veut pas de l'engouement. Que ces gens-là respectent ce que le président a arrêté comme mesure, qu'ils fassent le suivi comme il se doit. Ils nous écoutent. Nous ne voulons pas de la tracasserie dans la population. Ça, nous ne voulons pas. C'est un problème de conscience. Tout Congolais doit savoir qu'il est menacé. Nous sommes sous la menace. Alors, on doit prendre conscience dans chaque ménage. Partout où nous passons, respectons les mesures arrêtées pour pouvoir être en bonne santé. Et ma question envers l'invité est celle-ci. Le port des masques, selon moi, nous suffit. Parce que en respirant, il sait, il connaît cela mieux que moi. En respirant, nous rejetons les gaz et nous sommes censés aspirer l'oxygène. Et maintenant que nous avons un tissu au devant de nous là, qui va barrer, n'est-ce pas,
la route à l'oxygène,
la sortie des gaz. Et qu'est-ce qu'on va faire en ce moment-là? Parce que c'est plus que ce que nous sommes. Parce que vous rejetez les gaz, vous les aspirez, vous rejetez, vous les aspirez. Bon, on va aller où avec le port de masque? Je ne sais pas, personnellement, ça me dépasse.
D'accord, merci. Docteur Michel Mouvoudi.
Alors, monsieur Jody, merci. Je vais profiter de l'occasion pour d'abord revenir sur la question de notre ami de Mbandaka, rapport avec les
transports fluviaux, oui.
Exact. Donc, je pense que, encore une fois de plus, j'ai assisté, moi, justement, à l'organisation de ce genre de transport. C'est vraiment, comme il a mentionné, des conditions de promiscuité incroyables. Il appartient, justement, aux autorités qui travaillent notamment sur ce secteur, de commencer à s'organiser pour essayer d'assurer que lorsque ces bateaux se déplacent, on a quand même des conditions qui ne favorisent pas la propagation. Mais aussi, il y a toute une discussion qui doit être engagée pour voir dans quelle mesure on pourrait introduire, par exemple, des tests rapides au niveau aussi de ces genres de transport, comme on le fait avec le transport aérien, pourquoi pas. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que pas seulement dans le secteur du transport fluvial, on le voit même ici avec le transport urbain. En effet, on a demandé à ce que chaque secteur, que ce soit le transport, que ce soit les gens qui travaillent dans l'économie, les marchés, chaque secteur, l'école, chaque secteur a besoin de pouvoir définir des mesures idoines ou des mesures qui s'appliquent par rapport aux activités qui sont en train d'être menées. C'est par exemple quand vous regardez les miniers, hein, de plus en plus ceux qui travaillent dans les mines commencent aussi à réfléchir sur ça. Autant on le fait pour l'école, autant il faut aussi penser cela pour le transport, il faut penser sur la question des entreprises, il faut penser sur les églises, ainsi de suite. Pour moi, ça reste important et je crois que c'est un travail qu'il faudra que le ministère de transport commence déjà à faire. Alors, pour notre ami Malonga de Bandunguville, bon, il faut d'abord qu'il comprenne que les mesures qu'on a, que le chef de l'État a éditées concernent l'ensemble du territoire national. Donc, encore une fois de plus, quand vous regardez la cartographie, vous vous rendez compte que toutes les provinces quasiment sont touchées. Et là où on n'a pas encore un seul cas, ce ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément de cas. Peut-être qu'il y en a, mais on n'arrive pas à les détecter. L'idée, c'est de prévenir. Et en tant que tel, c'est très important de commencer à anticiper sur des messages de prévention. Et quand vous regardez, comme je vous le dis, sur les 13 décisions qui ont été dictées par le chef de l'État, oui, déjà, c'est vraiment des décisions qui renforcent les mesures barrières que nous connaissons. Alors, Madame Evelyne, encore une fois, merci beaucoup de ce que vous dites en rapport avec le message du chef de l'État et le respect de ces mesures édictées. Très important, hein. Je crois que chaque Congolais devrait se comporter comme ça. En fait, il s'agit d'une question d'auto-appropriation. On n'y arrive pas si on ne peut pas le faire. Il faut s'approprier les mesures. Il faut que chacun de nous, comme je l'ai toujours dit, définisse sa contribution par rapport à ce qui est en train d'être donné comme recommandation. Et sur le port du masque, il faut que tu t'assures que, en santé, en fait, on mesure toujours le risque. Si tu balances le risque d'attraper le virus versus le risque de mettre un masque et d'avoir une diminution d'ailleurs très légère de l'apport en oxygène, en fait, tu vas choisir le moindre risque, entre guillemets. Je préfère pas attraper le coronavirus parce que si je suis malade, les moyens que je vais engager pour pouvoir me prendre en charge, et potentiellement si c'est mal géré, je peux mourir, versus si je mets mon masque, même s'il m'arriverait d'avoir un petit déficit en oxygène, cela ne peut pas endommager, comme on le pense, le fonctionnement du corps. D'autant plus que quand tu arrives, par exemple, dans des milieux très ouverts, tu peux parfois respirer. Vous savez que quand nous mettons les masques, c'est surtout dans certains milieux bondés ou continuons dans les bureaux, mais quand vous êtes en route, à un moment donné, vous pouvez oser respirer de l'air frais. Donc, encore une fois de plus, on balance toujours le risque et aujourd'hui, il est démontré que le masque, c'est vraiment une vraie mesure barrière qui empêche le virus de pouvoir aller d'une personne à l'autre. Si tu vois bien cette rigueur de port de masque qui a été appliquée dans certains pays comme la Corée, la Chine, l'Europe aujourd'hui, évidemment couplée aussi au succès de la vaccination, ça a vraiment permis à ce qu'on commence à voir certains pays déconfinés. Vous avez vu aujourd'hui, en France par exemple, le port du masque dehors n'est plus obligatoire. Mais encore une fois de plus, il faut qu'on y travaille et il n'y a aucun problème sur le plan sanitaire à pouvoir porter le masque tel que je l'avais mentionné encore une fois de plus.
Bien, le chef de l'État a annoncé la fermeture des discothèques pendant 15 jours. Bon, certains disent, est-ce que cela veut dire que les bars continuent à fonctionner ou pas?
Non, je crois que les mesures que le chef de l'État, les mesures que le chef de l'État venait de donner n'annulent pas les autres mesures. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Il n'a pas fait table rase pour dire, écoutez, ce qu'on avait dit avant tombe, maintenant on commence avec de nouvelles mesures. Il a renforcé certaines mesures. Ça veut dire, en d'autres termes, les mesures qui s'appliquaient notamment au regroupement. Vous savez que les bars sont des lieux de regroupement, les boîtes de nuit, vous le savez très bien. C'est tout endroit aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent que même si on doit les discothèques, on doit les bars, mais retenez ceci tout simplement. Tout événement qui crée un engouement des gens, qui favorise la promiscuité, quel que soit son nom, c'est un moment, c'est un endroit à proscrire, à éviter. Ok? Qu'on l'appelle discothèque, qu'on l'appelle fête d'anniversaire, qu'on l'appelle, je ne sais pas moi, colloque, qu'on l'appelle, quel que soit le nom que vous allez donner, tous les endroits des jeux où les gens sont confinés, où les gens sont en promiscuité, où on sent que parfois il n'y a pas de contrôle des mesures, surtout quand vous prenez des situations où parfois c'est couplé avec l'alcool, la drogue. Tous ces endroits-là, tous ces moments-là sont à éviter. Encore une fois de plus, quand vous regardez sur la liste les bars, les discothèques, certains endroits où les gens viennent et sont bondés, en tout cas, c'est des endroits qu'on a proscrits. Maintenant, attention,
Les églises, les universités, les écoles sont des endroits à risque, et à risque majeur. Si on a voulu que les universités et les écoles continuent à fonctionner, c'est parce qu'on sait le rôle de l'éducation. On sait qu'on a besoin de ne pas arrêter la production, on a besoin de voir l'économie avancer. Les gens ont besoin de manger, les restaurants. Mais là, le défi qui nous est lancé, c'est de dire, oui, nous acceptons, nous voulons bien que les gens aient à l'église, c'est une très bonne chose, que les gens puissent aller manger, que les gens puissent prier, que les gens puissent aller
étudier
à l'université. Oui. Mais attention, vous voyez, dans les messages du chef de l'État, il a tapé fort sur le respect des mesures barrières. C'est là le rôle du contrôle. Donc, moi, pour moi, on devrait déployer une brigade sanitaire Covid-19 dans ce pays. Je ne voudrais pas, moi, trop, excusez-moi de le dire, je ne voudrais pas trop compter sur la police seulement, parce que je vois, par exemple, que la police elle-même n'est pas le modèle. Vous arrivez comme ça, le policier qui n'a même pas de masque, faudra-t-il encore que lui puisse avoir le masque pour vous dire à vous de porter? Deuxièmement, on voit, par exemple, et on nous rapporte des cas où les gens qui ont des bars, qui ont donnent déjà de l'argent aux policiers en avance pour dire « nous allons travailler, nous allons faire ce qu'on va faire, ne venez pas ». Donc moi, je pense qu'il faut recréer une brigade sanitaire COVID-19 et déployer ces gens à travers les rues, les avenues, et leur montrer que vous êtes un peu quelque part les militaires sanitaires de votre entité. Et du coup, une église, un restaurant, une école, une université où on ne respecterait pas les mesures barrières telles qu'on l'a mentionné dans le discours du chef de l'État, ben, un rapport est fait, on réprimande, on corrige ou alors on ferme carrément. Si ce travail n'est pas fait, on va devoir peut-être gagner du côté des bars et des restaurants, je suis d'accord. Mais attention, le virus peut se porter très bien en termes de propagation du côté des églises, des écoles, des universités, des restaurants. Et ça, on n'aura rien fait. Donc, il faut mettre autant un bras fort à droite, ça veut dire là où on ouvre et les gens se rassemblent, mais attention, les mesures barrières doivent éviter la propagation, mais aussi veiller à ce que là où on a fermé, qu'on ferme. Si cet équilibre n'est pas maintenu, ben, nous allons avoir la propagation du virus dans les écoles, dans les universités, dans les restaurants, et on n'aura rien fait. Donc je crois que vous comprenez la nuance et le défi qui nous est lancé par rapport à ça.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Charles Kisimba est à Lubumbashi et Benjamin à Kananga. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci pour l'opportunité. Moi, je voulais un peu juste demander, est-ce que ne serait-il pas possible de légiférer tout simplement à une infraction les mesures de masque? Parce que parfois, nous, Congolais, même dans le moindre chose pour entendre, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de légiférer cela en une infraction? Et la deuxième question... quand est-ce que les sportifs vont aussi se retrouver, parce qu'ils commenceront toujours à diminuer dans chaque vague. Sous d'autres cieux, on a commencé quand même à diminuer le nombre de sportifs sur le terrain, mais avec les mesures barrières ici, est-ce que les sportifs continueront toujours à rester comme ça?
Bien, merci Benjamin. Vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bien, nous parlons de l'application des mesures barrières contre la troisième vague de Covid-19. Quelle est votre question?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Le mesure du chef de l'État prise pour lutter contre la troisième vague de la pandémie coronavirus, ça va être très indispensable parce que la pandémie est mondiale et on doit être conséquent, monsieur Jody. Mais sinon, la question reste posée. Quels sont les mécanismes d'accompagnement? Parce que je me rappelle, le président a dit dans son discours, j'annonce ces mesures avec effet immédiat. Mais si je dis, regardez, 72 heures maintenant après l'annonce de ces mesures, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Pratiquement rien, depuis la ville de Kananga. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui, ben, je viens de sortir du marché tout à l'heure. Là. Il n'y a pas même de points d'eau là-bas. Personne ne s'en occupe. Nous avons les autorités qui peuvent faire appliquer ces mesures-là, mais rien n'est fait sur le terrain. Pour le cours des caches, monsieur Jody, je vous dis, c'est comme une maladie, une très grande maladie ici au Kassai Central. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre des doutes par rapport à ces situations. Mais sinon, là où je ne suis pas d'accord avec certains milieux qui ne sont pas fermés, c'est lorsqu'on autorise que les restaurants restent ouverts, lorsqu'on autorise que les écoles restent ouvertes. C'est vrai, on peut sauver l'année, bien sûr. Mais si je dis, mais quelle est la vie d'un enseignant aujourd'hui? Un enseignant qui est mal payé, qui est sous-payé, impayé, vous l'exposez encore pour aller encadrer les enfants. Il y a beaucoup d'écoles ici, mais si je dis au quartier central, qui n'ont pas même des points d'eau. Je me pose la question, qu'est-ce que les élèves et même les anciens iront faire dans de telles écoles? Et qu'est-ce que le gouvernement a pensé pour qu'on puisse éviter la propagation du virus? Moi, je pense que c'est parfois des mesures qui vont souffrir d'application à la longue parce qu'il n'y a pas tous les mécanismes réunis pour faire accompagner cette mesure. Sinon, à ce sujet, je demanderais qu'on puisse peut-être prendre d'autres dispositions, peut-être faire appliquer ces mesures. Parce qu'un Congolais, pour comprendre, bon, il faut qu'il soit accompagné d'un fouet. Si peut-être on commence à déployer les policiers par-ci, par dans les quartiers, au centre-ville, vous n'avez pas de gage-nez, on met la main sur vous, vous êtes engagé, vous payez des amendes. Je pense que tout le monde verra maintenant que la maladie est là. Il peut se forcer pour commencer à respecter les gestes barrières. C'est un peu ça ma contribution, monsieur Jody.
Bien, merci. Docteur Michel, on vous dit.
Alors, peut-être Jody, tu vas me rappeler la question de Charles Michon par celle de Benjamin, que j'ai eu apparemment un
petit connexion. Oui, Charles Kissimba de Lumbashi demande que le port du masque soit érigé, que cela devienne une infraction, qu'on puisse légiférer là-dessus parce que les gens ne respectent toujours pas.
Ah d'accord. Alors, je commence d'abord avec Benjamin. Merci Benjamin, hein, parce que tu évoques justement un constat qui est amer pour tout le monde, pour moi, pour beaucoup. Alors, encore une fois de plus, je reviens sur la toute première question que je venais de recevoir. C'est la question d'application. Je dis, tu sais, dans ce pays, moi, ça me fait rire un peu. Excuse-moi de le dire comme ça. Les gens se révoltent et sont tout de suite prêts à marcher lorsqu'il s'agit des questions politiques. OK, une loi qui n'est pas votée, un problème au Parlement. Les gens font des marches. On voit la société civile s'agiter. On voit les gens protester. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'au Kassai central, nous avons quand même une société civile, nous avons une communauté. Lorsque vous vous rendez compte, justement, que l'autorité politico-administrative établie ne peut pas faire appliquer immédiatement les mesures du chef de l'État, en termes de respect des mesures barrières et autres, mais il appartient aussi, là, pour moi, à la population de dire non, trop c'est trop, nous allons marcher. À Kananga, les gens ont fait une marche pour protester contre l'insécurité. C'est très bien, mais ça aussi c'est une insécurité sanitaire. Pourquoi on ne voit pas ces groupes de jeunes faire la même chose en disant « trop c'est trop, nous n'acceptons pas avoir un dirigeant ici chez nous qui laisse les gens se faire contaminer, ne fait rien, nous demandons des mesures draconiennes ». Ça c'était intéressant, on le fait pour tout, mais sauf pour des questions sanitaires. Donc encore une fois de plus, il faut justement que les communautés se prennent en charge. C'est important de réveiller l'attention des autorités politico-administratives en faisant aussi pression, comme on le fait pour des questions de sécurité, comme on le fait pour des questions politiques.
Parce question que des élections, justement... tout ça.
Exactement. Mmh. Deux, vous avez un parlement provincial, mon Dieu. Hein? Vous avez un parlement provincial. Que les jeunes, que M. Benjamin sollicitent la société civile, la Lucha ou je ne sais pas, toutes ces personnes, mais allez voir le président de l'Assemblée provinciale. Ils sont élus de la population. Ils ont mandat de parler au nom de la population. Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir contraindre l'autorité ou l'exécutif à appliquer ces mesures? Mais nous avons des instruments, monsieur Jody. Il ne faut pas que les gens commencent toujours à s'alarmer. Ça, c'est un peu le Congolais, malheureusement, que nous sommes. C'est qu'en fait, on nous a appris à nous alarmer, à demander, à tendre la main, à espérer.
Sans agir.
On est vraiment dans ça. Mmh. Non. Vous avez un président de l'Assemblée, vous avez des députés que vous avez élus. Ces gens-là siègent, ils ont à dire dans de telles situations, ils sont en face du gouverneur, mais allez les voir, faites des marches, dites trop c'est trop, nous voulons voir des actions. Et là, ça rejoint la question qu'il venait de donner par rapport aux écoles. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'eau dans les écoles qu'il faut fermer les écoles. Ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas les mesures, on n'a pas de l'eau dans les restaurants qu'il faut fermer les restaurants. Non, c'est l'inverse. Nous avons ce qu'on appelle des activités d'utilité publique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui fermer l'école. Vous ne pouvez pas aujourd'hui fermer un restaurant. D'autant plus que l'alimentation est importante. Mais appartient. Mmh. Il vous appartient de mettre les conditions nécessaires. Je donne un exemple. Si vous vous rendez compte que les gens ne mettent pas la ceinture de sécurité dans les voitures, vous devez supprimer la circulation des voitures parce que les gens ne mettent pas la ceinture de sécurité. Où vous allez exiger que les chauffeurs
vous démontrent que leurs véhicules ont des ceintures de sécurité et qu'on les applique. Donc, il doit inverser un peu son raisonnement. C'est très important, ça. Je reviens sur le rôle de la communauté, M. Benjamin. Vous êtes là quand il y a l'insécurité à Kananga, quand il y a des problèmes d'élection des gouverneurs, on vous voit dans la rue, on vous voit protester, on vous voit marcher. Mais pourquoi vous ne le faites pas pour des questions de vie? Il s'agit des questions de vie lorsque le coronavirus tue les gens. Donc, prenez le même engagement. Nous sommes dans une situation d'insécurité sanitaire, au même titre que l'insécurité avec les bandits. Le bandit qui tue, cette mort, c'est la même que la mort donnée par le coronavirus. Il faut que les communautés, et là j'interpelle mes amis de la société civile, elles sont très plaintives en RDC. Elles attendent, elles ne font que jeter la pierre. C'est là aussi qu'on devrait les voir. J'interpelle les députés, nos amis élus. N'attendez pas seulement une motion de méfiance, de défiance, une interpellation. Vous êtes trop dans ça, c'est bon. Mais là, on a des questions de vie. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? C'est important. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, monsieur les députés, monsieur les sénateurs et autres? Alors, ce que monsieur Charles dit par rapport au port du masque, il a raison, je dis. La question d'infraction, c'est aussi une question d'application. On sait, vous vous rappelez, quand on avait commencé la COVID-19, on avait justement mis une infraction sur les gens qui n'allaient pas porter les masques.
Une amende de 5 000 francs.
Exact. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? La corruption, encore une fois de plus. On corrompt le policier et on passe. On peut le faire encore cette fois-ci. Comme il veut la loi, on peut faire la loi. Nous avons des lois dans ce pays. Le problème de la RDC, moi je l'ai toujours dit, c'est pas une question des lois. C'est une question d'appliquer les lois. C'est une question de gouvernance. Pour moi, avant d'aller à l'infraction, il y a d'abord cette sensibilisation, cette compréhension du rôle du masque. Regardez nos amis du Nord, je vous dis. Regardez la France, regardez la Corée, regardez. La discipline communautaire, populaire, est une voie obligée pour vaincre cette pandémie. Ça ne sert à rien de mettre des infractions. Vous devez comprendre que c'est votre masque, c'est votre santé. J'ai toujours mis ça par un exemple. Un médecin qui vous dit, monsieur Jody, je vous demande de prendre ce médicament le matin et le soir. Vous voulez vraiment que l'État mette une infraction pour vous si vous ne prenez pas le médicament le matin et le soir pour le prendre? Mais non, en santé, ce n'est pas comme ça.
C'est une question de responsabilité santé, personnelle.
Exactement. Votre santé, vous en êtes le premier responsable. Si je mets mon masque, je me protège. Je ne mets pas le masque, ce qui va m'attendre, va m'attendre. Encore une fois de plus, j'entends les gens qui vous disent « Oui, mais moi, je vais par exemple me faire vacciner quand je verrai un sénateur me faire vacciner. » Mais le jour où tu es malade, on t'enterre seul sans ce sénateur. Le jour où il est malade, on l'enterre seul. Nous sommes dans une question de santé. C'est différent, ne confondez pas les choses. Encore une fois de plus, que chacun comprenne que quand je me lave les mains, c'est moi d'abord. Quand je mets mon masque, c'est moi d'abord. Ce n'est pas la radio Kapi, ce n'est pas le président, ce n'est pas le sénateur, ce n'est pas le gouverneur. Si on commence à comprendre ça, il y aura potentiellement une toute petite proportion des gens qui vont être récalcitrants. Ça, c'est un peu partout, on le sait. C'est pourquoi la justice, la police existent. Et ces gens-là ne vont pas nous donner beaucoup de travail parce que là, justement, on peut miser avec la force et les pousser aussi à mettre le masque. Mais une violation massive, drastique, un relâchement massif, drastique comme ça, il faut passer par d'autres mesures. Et je viens de dire à M. Benjamin de Kananga, donc, qu'ils ont des outils populaires pour pouvoir contraindre les autorités à faire des choses.
D'accord.
Arrêtez de vous plaindre.
Oui.
Arrêtez de vous plaindre.
Arrêtez de se plaindre. Passons à l'action. On va accueillir Gaston de Kinshasa et ensuite le professeur Jean-Marie Kaimbe. Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody Daniel.
Quelle est votre question, Gaston?
Bon, premièrement, j'aimerais avoir qu'on puisse un peu nous dire l'apport des mesures barrières instaurées jusque-là par rapport à l'évolution de la maladie. Hein. Quel est l'apport? Parce que jusque-là, on nous avait exigé, je dis bien exigé, de respecter certaines mesures. Et nous le faisons. Et est-ce que ces mesures-là ont un apport par rapport à la propagation ou à l'évolution de la maladie que nous vivons, qui revient, qui refait surface avec, comme on parle de la troisième vague, avec ampleur, quoi. Que ceux qui sont techniciens qui puissent un peu nous expliquer pour qu'on puisse avoir une idée. Parce que
donc, vous voulez savoir si les mesures barrières vont aider à réduire la contamination?
Vont aider, est-ce qu'on ont déjà aidé? Parce que nous vivons ces mesures depuis l'apparition de la maladie, hein. Qu'on puisse un peu nous expliquer si
Si réellement ça peut contenir la maladie.
Ça contribue. Si
d'accord.
Ça contribue réellement.
Oui.
Et puis la deuxième question, c'est les rapports. Hein. Je voulais un peu faire les rapports entre, si on nous explique les rapports entre la troisième vague et la vaccination, parce que on ne pouvait pas aussi stopper la maladie d'un coup tant qu'il y a les vaccins qui sont là qui doivent être administrés. Est-ce que la troisième vague a un rapport direct avec la vaccination qui a débuté dans plusieurs pays? Mais surtout aussi préciser que les mesures barrières, à mon avis, ne devraient pas être obligatoires. Ça devrait être des recommandations, hein? Parce que vous parlez des infractions où les gens sont actuellement manipulés, malmenés par les agents de l'ordre qui empochent les quelques pays là qui sont versés. Il n'y a pas d'infraction dans les cas d'espèce, parce que vous savez, l'infraction, c'est l'effet d'une loi. Ça, ce sont des déclarations qu'une autorité a faites, qui n'ont même pas un sous-battement juridique. Donc, on ne peut même pas parler des
infractions. Bon, Gaston, c'est quelqu'un qui a proposé, si on peut ériger cela en infraction,
oui, mais
parce que les gens ne respectent pas. Merci. Professeur Jean-Marie Kayembe, vous êtes responsable de la prise en charge au niveau de l'équipe des Riposte. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous avez suivi les questions de Gaston directement au professeur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, Monsieur Gaston, d'abord, sa première question, quel est l'apport des mesures barrières? Je voudrais dire à Monsieur Gaston que la médecine, comme la plupart d'autres sciences, veulent effectivement avoir des résultats ou des recommandations fondées sur des preuves, evidence-based. Donc, il a raison de dire... Là a été jusqu'à présent l'apport de mesures barrières. Je voudrais apaiser ces inquiétudes. Nous apprenons humblement et toujours les uns des autres. Je voudrais dire, les mesures barrières qui peuvent être individuelles, comme le lavage de mains, comme le port de masque, etc., sont d'application au niveau des individus. Et ensuite, il y a des mesures barrières au niveau sociétal, de la cité, du pays, etc., c'est le confinement, etc. Aujourd'hui, on a des preuves évidentes que les mesures barrières ont apporté, ont impacté de manière positive l'évolution de la maladie. C'est pour ça que dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, on a parlé d'une première vague suivie d'une période d'accalmie et en général, ces périodes d'accalmie ont été corrélées avec soit le confinement sur le plan mesures barrières sociétales, pays, soit une application stricte, l'exemple de la Chine, de la Corée et même de chez nous. Au mois de mars de l'année dernière, après le pic de mai-juin, puisqu'il veut de près de chez nous, nous avons martelé. Le président de la République a pris des mesures de confinement, notamment de la Gombe et puis de Kinshasa par rapport aux provinces. On a eu certainement une première accalmie importante. Pour nous, le lien de cause à effet est totalement établi. Et puis, lorsqu'on comprend comment se transmet cette maladie, par des postillons, des gouttelettes, des aérosols. On comprend l'effet barrière évident du masque. On comprend également comment le lavage de mains, qui peut nous protéger de manière tout à fait indirecte et, disons, par négligence, éventuellement prendre les germes qui sont sur une surface et puis contaminer les muqueuses, etc. Laver les mains au savon, des solutions hydroalcooliques. On a bien démontré leur efficacité sur la neutralisation du virus. Donc la première réponse, à mon avis, est, il faut dire oui, ces mesures, on a des preuves qui peuvent aider. Ensuite, relation entre la troisième vague
et la vaccination.
Ben, à mon humble avis, et cela est vrai, d'abord, la compliance au vaccin dans notre pays, pour des raisons évidentes, etc., n'a pas été la plus parfaite possible. Ce que l'on sait de ce vaccin, c'est que lorsqu'on dit qu'un vaccin a 70% de pouvoir de protection, 80%, les recommandations internationales veulent qu'à 50% déjà d'efficacité, on puisse carrément accepter l'utilisation d'un médicament, d'un vaccin, etc. Le vaccin protège normalement et évidemment d'abord de l'infection, mais surtout du développement éventuellement de formes graves qui, elles, sont grévées quand même d'un lourd taux de létalité. Le risque de mourir lorsqu'on a une forme grave de la maladie est beaucoup plus important que lorsque celle-ci est légère. je voudrais dire à notre ami, c'est Gaston, je pense. Me pardonne si j'ai oublié son nom.
Oui, c'est Gaston.
Ce qui reste vrai, c'est qu'on a des cris aujourd'hui rapportés, en tout cas à travers le monde, quelques personnes vaccinées qui ont tout de même refait la maladie. Mais lorsqu'ils la refont, ils font généralement une forme légère. Donc, le vaccin a son importance. Maintenant, nous n'entrons pas dans la discussion du vaccin qui a sa composante psychologique, sa composante adhésion populaire, communautaire, mais également la place qui incombe à la communication pour cette acceptation du vaccin. Les vaccins à travers le monde, on sait très bien qu'ils sont le meilleur moyen de tenir assez rapidement dans une communauté donnée immunité communautaire collective protectrice. Donc généralement au-dessus de 60%.
Bien, on va accueillir Djibril de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question par rapport aux mesures d'accompagnement pour faire respecter la troisième les mesures prises pour contrer la troisième vague de Covid-19?
Oui, merci monsieur. En tout cas, moi ma préoccupation est celle-ci. J'allais juste demander au monsieur là, est-ce que...
Au professeur Jean-Marie Kayembe.
Oui, oui, qui accepte d'être monsieur là, ça, il n'y a pas de problème.
Non. En tout cas, professeur, désolé vraiment, merci monsieur. En tout cas, là, vous allez m'excuser vraiment pour vous appeler monsieur là. En tout cas, là, je m'excuse le professeur.
Allez-y.
Ok, merci le professeur. J'allais juste demander, à travers cette troisième vague, malgré le geste barrière qu'on observe. Mais moi, j'ai vite remarqué que, surtout ici à la capitale de Kinshasa, en tout cas, c'est vraiment très, très, très compliqué. Beaucoup de gens ne croient toujours pas que non, la maladie existe. Beaucoup de gens ne savent même pas que non, le Covid est déjà là. Alors, il y a toujours des entroupements, il y a des anniversaires qui se font là, par-ci, par-là. On voit les troupes, on voit dans le bar, malgré les mesures barrières, malgré tout ce qu'on vient de dire là. Mais en tout cas, moi, je remarque qu'il y a toujours des entroupements. Alors, j'allais juste savoir, qu'est-ce qu'on peut faire ou bien ça serait vraiment quoi pour que les gens puissent comprendre? Et par là, j'ai vite compris que non. C'est juste question de la conscience humaine. C'est la conscience humaine qu'on doit quand même interpeller ici. Parce que tous les gestes barrières, les gens ne comprennent toujours pas que non, la maladie existe.
Merci Djibril. Donc les mesures sont édictées, mais sur le terrain, voilà. Les gens sont incrédules, donc ils continuent leur vie comme avant. Il y a les attroupements, on fête les anniversaires. Professeur Jean-Marie Kayembe.
Mon ami Djibril, je voudrais déjà dire que son nom me rappelle un footballeur célèbre français, Djibril Cissé, sans que ce soit lui. Mais Djibril a parfaitement raison quand il dit que les mesures ne sont pas appliquées. Et ce qu'il fait déjà au travers les canaux de Radio Okapi, c'est de la sensibilisation. Il a fait un constat, observance maigre des mesures barrières. Lorsqu'il le dit, il contribue lui aussi à sensibiliser la population sur la réalité du fait Covid dans notre pays. Remarquez, nous avons actuellement comme taux d'hospitalisation. Vous suivez régulièrement, en prenant ces mesures, le chef de l'État a commencé, et le Premier ministre, le gouverneur de la ville, par reconnaître que les hôpitaux sont pratiquement surpeuplés, sont débordés quant à l'admission de maladies. L'augmentation du nombre de cas. L'augmentation du nombre de cas sévères admis en réanimation, si cela ne peut pas concourir à nous permettre d'avoir une conscience collective qui commence par la conscience individuelle, c'est préoccupant. Mais qu'à cela ne tienne pas de découragement, comme M. Djibril et ensemble, et vous, les hommes de médias, sensibilisons davantage sur le risque sanitaire que constitue cette maladie chez nous, cette troisième vague à l'heure actuelle.
Bien, professeur Jean-Marie Kayembe, responsable de la prise en charge des personnes malades au sein de l'équipe des Ripostes, merci et excellente journée.
Merci à vous autant, merci.
Gilbert Lokwa, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour la radio Capi et je salue aussi les invités.
Quelle est votre question rapidement? On est presque à la fin de l'émission.
Oui, rapidement, j'aurais seulement une question à poser à l'invité, mais avant tout, je voulais faire mon constat, le constat depuis que cette pandémie est déclarée dans notre pays. C'est ma façon de voir les choses. Et si on se dit les choses n'évoluent pas normalement comme le souhaite tout le monde, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Donc, en fait, si le plan de la communication, si le plan de la sensibilisation, là-bas, vraiment, il y a des failles, il faut relever ces défis-là. Mais la question que j'aurais posée à l'invité, c'est de savoir, quelle est la couche vraiment de la population qui est censée respecter les gestes barrières dans notre pays? Parce que je donne un exemple, lorsque vous voyez là, au niveau des plénières, des députés au niveau de l'Assemblée, vous allez voir que non, les ports de masques ou les gestes barrières est facultatif. Donc, vous voyez un député entrer dans la salle, il veut ou ne pas porter les masques.
Oui, merci. Merci Gilbert, on a pris beaucoup de temps. Docteur Michel Mouvoudi.
Alors, tout ce que je peux développer, c'est qu'en fait, les recommandations par rapport à la prévention, notamment sur la question de port de masque, vous allez me corriger si je n'ai pas bien capté la question que je pensais, c'est qu'elle était adressée au professeur. Et donc, il faudra qu'ils comprennent que on a demandé à ce que tout le monde respecte ces mesures. Il n'y a pas une catégorie qui va respecter ces mesures et pas une autre. C'est important parce que, regardez la distribution du virus, vous allez vous rendre compte en fait que tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé. Il n'y a personne qui est laissé pour compte dans cette situation. Donc du coup, c'est une application collective et à tous les niveaux. Évidemment, il est important qu'ils comprennent que, et je crois que le prof l'a mentionné, et ça je le dis aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre qu'en fait, une réussite collective commence par une discipline personnelle. Nous sommes en soins de santé, nous sommes en santé publique. Vous arrivez justement à améliorer une surface plus large lorsque chacun de vous adopte un comportement. Donc, à ce titre-là, il ne faudra pas que les gens se mettent dans une position de « moi, je ne vois pas, moi, je ne comprends pas ». Non, c'est de se dire « voilà comment nous, ici à l'Équateur, voilà comment nous, ici au Congo, voilà comment nous, ici à Kinshasa, nous voulons justement faire en sorte que ces mesures s'appliquent ». Et voilà éventuellement les barrières ou les goulots d'étranglement qui sont évoqués par les populations. C'est très important ça. Mais qu'à cela ne tienne, il doit comprendre que ces mesures qu'on appelle mesures barrières sont très importantes. Le prof l'a mentionné. On a eu des succès au Nord et dans beaucoup de pays avec cela. Vous voyez ce qui se passe en France, vous voyez ce qui se passe en Corée. Et donc, il faut les appliquer inconditionnellement et les appliquer à tous les niveaux et tout le monde doit les appliquer. C'est très important et nous devons y veiller avec l'ensemble des structures de gouvernance politique, administrative.
Gilbert est revenu également sur la communication, la sensibilisation.
Ah ouais, la sensibilisation doit continuer, monsieur Jody. Regardez, d'abord le travail que vous faites, et j'en profite pour dire encore une fois de plus merci à Radio Capi pour tout le travail qu'elle est en train de faire sur la sensibilisation autour de la COVID-19 depuis très longtemps. Mais ce qui est vrai, c'est que ce pilier communication, en fait, qui est un pilier important de la lutte, n'est pas encore très développé, il faut le dire. On l'a vu d'ailleurs avec la vaccination, mais c'est important qu'on continue à sensibiliser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai mentionné avec plusieurs autorités politico-administratives, oui. Il faut, pendant ce temps, qu'il y ait des programmes spéciaux à travers les radios, les télévisions, par rapport avec ce que nous faisons.
Docteur Michel, on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe de Riposte contre COVID-19 et expert en santé publique. Excellente journée. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.